On va continuer notre méditation sur les différentes périodes de l'humanité, ce qu'on appelle dispensation, les périodes d'administration de la Terre gérées par les hommes. Et la dernière fois, nous étions arrêtés à ce que nous appelons la dispensation de la grâce, c'est celle que nous connaissons actuellement, qui commence avec l'œuvre de Jésus à la croix, mort pour nos péchés. Et sur toute cette série de l'humanité, on a vu que Christ a enfin résolu le problème de l'humanité, qui est le problème du péché, qui fait que l'homme est loin de Dieu, que par sa propre nature, nous sommes éloignés du cœur de Dieu. Mais on avait vu également que cette dispensation ne résout pas tout. Parce que alors que le cadeau est offert à toute l'humanité, d'avoir le cœur changé, d'avoir le pardon de ses péchés, de commencer une vie nouvelle en Jésus-Christ, d'avoir cette relation intime avec Dieu, eh bien on s'aperçoit que malgré ce beau cadeau et cette énumération que nous faisons, qui est suffisante pour apporter la paix, la joie, pour nous apporter la guérison même au travers des meurtrissures de Jésus-Christ, eh bien on voit que la majorité de l'humanité refuse ce si grand cadeau. C'est quand même incroyable. Tout le monde est confronté à la même misère et pourtant l'humanité dans sa majorité refuse le don de la vie. Alors nous allons commencer ce soir à voir les deux autres volets que l'humanité va traverser. Et là ce sont ce qu'on appelle des temps à venir. Un mot théologique et le mot eschatologie. C'est-à-dire ce sont les temps de la fin. Alors jusqu'à maintenant c'était facile de parler parce qu'on a la Bible et puis l'histoire de l'humanité, bah, on la connaît, elle est derrière nous, il y a les archives, il y a tout ça. Et là, on va aborder un sujet qui n'arrive pas encore. Déjà, la dispensation de la fin, comme on l'a vu la dernière fois, on sait quand est-ce qu'elle a commencé, c'est à la croix, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'achèvera. On sait à quel moment elle s'achèvera. C'est un événement que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Alors voilà une drôle de chose. Et au moment de l'enlèvement de l'Église, là vous voyez, on va aborder ce soir un thème qui a pour titre, que j'ai donné pour titre, le jugement. Le jugement. Alors, on va grossir le tableau. Pour simplifier la chose, je vous ai fait un autre tableau qui va représenter. Alors, excuse-moi, vous avez vu que cette période de jugement, elle va durer
7 ans.
C'est pas beaucoup 7 ans. Et pourtant, il va s'en passer des choses. Alors, tu peux mettre l'autre tableau. Je me permets juste de vous rappeler le verset que Jésus avait pris lorsqu'il était rentré dans le temple, lorsqu'il a commencé son ministère public. Je vous le rappelle, Jésus chercha dans le rouleau un texte, et en fait, il cherchait le texte d'Ésaïe 61, versets 1 et 2, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. » Et Jésus avait arrêté sa lecture exprès à ce moment-là. Pourtant, nous avions vu que dans le texte original, dans Ésaïe, il y a une petite phrase qui suit cette bonne nouvelle et qui est « Et un jour de vengeance de notre Dieu. » Et donc, après cette période de grâce que nous vivons, il va y avoir cette période de jugement. Alors, on va un peu décortiquer ce grand tableau que peut-être vous ne voyez pas très bien. L'essentiel, je vais vous le montrer dans les grandes lignes. Vous avez vu que... Non. Laisse comme c'était. C'est pas grave, voilà. Je vais vous l'expliquer à la main, vous allez voir. Alors vous avez vu qu'en haut c'est écrit « Essai chronologique de la période de grande tribulation ». Avant, ici, c'est écrit une année de grâce. Après, ce sera une autre période que nous verrons, qui est une période de 1000 ans. Il y a deux flèches que vous voyez bien. Une qui part de la terre et qui monte, et une qui vient du ciel et qui descend. Là, ce sont les deux limites de cette période-là. La première, c'est ce que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Pour ceux qui prennent des notes, on ne va pas avoir le temps de lire tous les passages ce soir. Il y en a beaucoup, moi-même je ne les ai pas tous relevés. Mais pour ceux qui veulent vérifier à la maison, vous pouvez lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Et puis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Je répète, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, qui parle de l'enlèvement de l'Église. En résumé, que dit Paul ? Il dit qu'en un instant, en un clin d'œil, tous les croyants en Jésus-Christ, les vrais, pas ceux qui viennent à l'Église, mais ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ceux qui vivent la grâce, seront en un instant, en un clin d'œil, transformés. Et notre corps de misère sera transformé en corps glorieux. Et nous serons élevés à la rencontre du Seigneur dans le ciel. Personne n'y comprendra rien, si ce n'est les concernés. Personne ne verra Jésus dans le ciel, parce que tout ça sera une réaction spirituelle. Notre corps charnel, terrestre, se transformera en corps glorieux. Et à partir de ce moment-là, il va se passer ce que le monde veut. Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que c'est une année de grâce, ouverte pour tous les hommes, mais que la majorité de la société refuse la grâce, refuse le cadeau, refuse le pardon des péchés, refuse d'obéir à la parole de Dieu. Alors Dieu va aller jusqu'au bout de la logique de ce monde. Il va enlever ses enfants et le monde sera livré à lui-même. Ce qui n'est pas tout à fait une juste expression. Parce qu'en fait, le monde n'est pas livré à lui-même, il est livré à Satan. Parce que Satan est le prince de ce monde. Et comme la Bible nous dit que depuis le commencement, Satan est menteur et meurtrier, c'est en Jean chapitre 8, verset 44 que Jésus en parle ainsi, alors on peut facilement comprendre que cette terre livrée sans retenue au diable, la terre va connaître un temps de ruine et de destruction. Et c'est ainsi que vous voyez, vous devez distinguer de loin comme une sorte de liste de petits événements qui arrivent. Là, vous voyez en haut de l'Apocalypse 6 jusqu'à chapitre 8, Apocalypse 8 jusqu'au chapitre 11, et vous voyez jugement des sept sceaux, jugement des sept trompettes, jugement des sept coupes. Et en fait, de l'Apocalypse, du chapitre 6 au chapitre 16, il y a ainsi toute une série de jugements qui va s'abattre sur la terre. Je ne vous en fais qu'une énumération. Il nous est parlé de grande séduction, il nous est parlé de guerre, il nous est parlé de famine, il nous est parlé de mort, il nous est parlé de martyr, on reviendra sur cette notion-là, il nous est parlé de catastrophe, il nous est parlé de feu, de grêle et de cendre, d'un tiers de la terre qui sera brûlée, un tiers de la mer qui sera transformée en sang, un tiers des sources qui seront devenues amères, un tiers du soleil, de la lune et des étoiles qui perdront de leur intensité. Il nous est parlé d'une sorte de puissance infernale qui persécutera et qui tourmentera l'humanité. Il nous est parlé d'un tiers de l'humanité qui mourra. Il nous est parlé d'ulcères malins. Il nous est parlé de mer transformée en sang. Il nous est parlé de sources empoisonnées. Il nous est parlé de chaleur extrême. Il nous est parlé de cette grande Babylone qui tombera. Il nous est parlé de l'Euphrate, de ce grand fleuve qui sera tari. Et tout ça en 7 ans. Alors vous ne voyez pas très bien, parce que c'est, si jamais vous voulez le tableau, on pourra vous le donner. Mais il faut comprendre que cette période de 7 ans qu'on appelle le jugement, c'est tous ces événements-là qui se passeront sur terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer pour les hommes? Qu'arrivera-t-il à l'Église? Alors on a dit que déjà l'Église est enlevée. Pourquoi c'est enlevé? Bah, tout simplement parce que le jugement ne concerne pas les croyants. Tout simplement. Dieu ne nous a pas réservé pour la colère, nous était dit, mais au contraire, il nous a réservé pour le ciel de gloire. Et donc, dans son plan parfait, Christ lui prépare d'enlever son Église pour épargner ses enfants de tous ces fléaux. Que se passera-t-il alors du reste de l'humanité? Je pense qu'il y aura des hommes et des femmes qui chercheront Dieu. Mais ce sera pour eux très difficile. Ce sera pour eux un temps de persécution. C'est pour ça qu'il nous est parlé, par exemple, de martyrs. Parce qu'il y a plusieurs passages qui peuvent nous faire comprendre que ce sera au prix de leur propre vie qu'ils voudront sauver leur âme. Il n'y aura plus d'église. Il n'y aura plus de pasteur. Il n'y aura plus de témoins autour d'eux. Et la parole de Dieu sera étouffée. Ce n'est plus le monde qui va régner, mais c'est vraiment le prince des ténèbres qui lui aura toute l'attitude d'agir. Et donc lui, il va rejeter tout ce qui peut amener les hommes à la connaissance de la vie éternelle. Et donc effectivement, si aujourd'hui les gens ont du mal à se décider pour Jésus, je ne sais pas quel choix ils feront demain. Alors peut-être que la persécution suscitera quelques élans de foi chez certains, mais combien il vaut mieux se préparer aujourd'hui dans un confort relatif plutôt que d'espérer dire « Oh, on verra demain » parce que le demain ne nous appartient pas. Je sais qui... Là, c'est juste pour rétablir quand même une certaine réalité. Il ne sera pas impossible de se tourner vers Dieu. Si les chrétiens ne seront plus là, il y aura toujours l'action du Saint-Esprit. Il y aura toujours dans l'humanité des hommes et des femmes qui pourront crier à Jésus et Jésus leur répondra, Jésus les aidera. Jésus n'est pas celui qui veut que les hommes demeurent dans le jugement et meurent dans leur jugement jusqu'en enfer. Jésus veut sauver. Il faut comprendre qu'au travers de ces jugements, Dieu ne prend pas plaisir à ces jugements. Dieu ne fait que laisser les hommes aller jusqu'au bout de leur endurcissement. Et inutile de vous rappeler la situation avec le Pharaon. Ce n'est pas avec plaisir que Dieu a envoyé les 10 plaies jusqu'à cette dernière où les premiers-nés étaient morts. Ce n'est pas avec plaisir que Dieu envoie ce genre de jugement. Mais il faut qu'il y ait malheureusement, à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme, des situations aussi extrêmes pour que le plan de Dieu s'accomplisse et que le peuple soit sauvé. Il y a dans cette frise chronologique, vous voyez en haut, semaine donc de 7 ans du prophète Daniel, ça parce qu'il y a d'autres références bibliques que l'Apocalypse. Et vous voyez que le tableau est comme séparé en deux. Ça reste le royaume de l'Antéchrist sur cette période-là, mais il y a comme deux périodes que vous voyez en haut, première moitié de 3 ans et demi et deuxième moitié de 3 ans et demi. Pourquoi parler de cela? Parce que dans cette période-là, Israël va jouer un rôle. Il nous est dit que le diable sera le grand chef des nations et pour avoir une autorité, il va faire un pacte, une alliance avec Israël. Et puis, ce pacte va le respecter pendant 3 ans et demi. Et au bout de 3 ans et demi, il va persécuter Israël. C'est ce qu'on voit ici. Satan poursuit Israël. Et là, voilà que le monde va rentrer dans une autre clivage où le diable, après avoir fait une alliance avec Israël, va pourchasser et va chercher à détruire Israël. C'est ce qui va mener, et c'est ce que vous voyez ici, petit croquis, vous voyez que ça monte en crescendo. C'est que Satan, cherchant à vouloir détruire Israël, va essayer de liguer des nations contre Israël. Et alors, il y aura cette guerre qui est très portée par les témoins de Jéhovah, qui s'appelle le combat d'Armageddon. Qu'est-ce qu'Armageddon? Ce n'est tout simplement, Armageddon vient de de Megiddon, qui est une région nord-ouest d'Israël où il y avait déjà eu des combats. Donc en fait, c'est surtout symbolique. Et là, il y aura une sorte de confluent, une intensité de guerre contre Israël et qui liguera plusieurs autres nations contre Israël. Donc ça, ça arrive vraiment vers la fin des 7 ans. Et comment tout ça, ça se termine? C'est écrit « Victoire de Jésus, envoyé une flèche qui descend du ciel et qui vient sur la terre. » Et là, c'est ce qu'on appelle le retour de Jésus, effectif sur la terre. Et là, c'est là où il est écrit ces passages, où il est « Tout œil le verra. Ceux qui ont crucifié le verront. Ceux qui l'ont percé le verront de leurs propres yeux. » Et donc, au bout de tout ce temps de jugement, Jésus revient sur terre, il instaure enfin cette paix, c'est ce que nous verrons la prochaine fois avec la période des 1000 ans. Et donc en fait on peut dire qu'à ce moment-là, il y a 2 événements majeurs qui vont se produire et qui commenceront donc une transition avec une autre période. C'est la conversion d'Israël. Israël va enfin, et à ce moment-là seul, commencer à reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ. Ils vont enfin reconnaître que Jésus est véritablement le Messie. Quand ils vont le voir descendre, là, ils vont dire, c'est bon, on capitule, on reconnaît que Jésus est véritablement le Messie. Enfin, il y aura la conversion d'Israël. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que malheureusement, il faut entendre qu'il y ait une intensité, une extrémité de misère pour que le peuple se convertisse. Et il y aura en même temps, mais nous verrons ça la prochaine fois, à cette période-là, pour que tout s'arrête, eh ben, il faut, ce qui posait déjà problème pendant l'année de grâce, il faut que Satan soit retenu, lié, attaché. Et là, ce sera ce moment-là qu'effectivement, on verra ça la prochaine fois, on nous a dit que Satan est lié et il ne pourra plus agir pendant un certain temps sur la terre. Amen. Donc ça, c'est le grand résumé de ce que nous pouvons voir. Mais je vous invite à une chose, c'est à lire un passage. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Parce que c'est vrai que s'il nous est difficile, et pour ma part, je parlerai plutôt de prudence, s'il est plutôt prudent de se garder d'annoncer et de dire des événements précis qui se passeront, il est vrai que nous pouvons quand même dire, et c'est notre responsabilité, de dire ce que la Bible exprime très clairement. Et ça, le retour, l'enlèvement de l'Église et toute section de jugement, ça c'est écrit noir sur blanc dans nos Bibles. Comment ça se passera exactement? J'espère qu'on ne sera pas là pour voir. Et j'espère pour vous que vous ne serez pas là pour le voir. Mais quoi qu'il en soit, lisons ces quelques versets pour nous encourager. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen.
Amen.
Amen. La date de l'enlèvement de l'Église, nul ne le sait, mais que peu importe. L'essentiel pour nous, c'est de continuer à grandir dans la foi et à grandir dans l'amour. Et si nous veillons à cela avec persévérance, avec foi, avec un amour sincère, si nous veillons sur nous-mêmes et si nous veillons les uns sur les autres, alors ce jour sera un jour de victoire, de grâce. Même si nous sommes en plein ménage, même si nous sommes à notre voiture, même si nous avons des contrariétés, qu'importe, ce qui est important, c'est que lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, il nous trouve veillants, priants, remplis d'amour et remplis de foi. Amen.
Amen.
Que nous puissions garder ça fort sur notre cœur. Peut-être que c'est demain, peut-être que ce sera dans 40 ans, qui sait la date, mais l'essentiel, c'est de veiller sur notre cœur et que nous puissions vraiment garder cette foi et cet amour qui sont les deux choses les plus importantes dans notre vie spirituelle. Amen.